1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Are we on the air?
Oh, salut les PD!
Salut!
Ich will keine Schokolade! Ich will lieber einen Mann! Ich will einen, der mich küssen und um den Finger wickeln kann!
SLP, salut les PD, c'est parti, salut Ghislain.
Salut Philippe.
Ça va?
Bah ouais, ça va.
Ouais, le ouais. Printemps arrive, t'es content?
Eh oui.
Bon, on est en avril, mais on parle de mai.
Ouais.
Ouais, enfin on parle de mai, on parle de 68, 1968 surtout.
Ça me pose un peu. Hein.
Ouais, ouais.
Ça fait 50 ans,
ça fait juste peur. Non, parce que moi je suis né avant 68, donc ça
non,
fait
ça
juste
va. Non, moi je suis né après.
Ok. On parle de mai 68, mais avant de parler de mai 68 en France, je pense que c'est bien parce qu'on comprend, à mon sens, pas vraiment mai 68 si on ne parle pas plus généralement de cette année 1968, qui est une année charnière à plus d'un titre, de mon point de vue. Et si on ne parle pas de mai 68... dans un contexte mondial. Je ne sais pas si tu es d'accord.
Mais... Ah oui, moi je suis d'accord. Quoi. Ouais. Enfin, c'est d'ailleurs hallucinant. Enfin, il doit y avoir une conjonction d'astres ouais. sur cette année. Parce que, alors, je veux dire, il se passe des trucs de partout. Quoi.
C'est ça.
Impressionnant.
C'est ça.
Et dans tous les domaines.
Et dans tous les domaines. Donc il y a vraiment matière. Et je pense que l'idée, c'est effectivement de faire un mois autour de mai 68, mais de consacrer cette première émission plus... de poser un peu les bases de cette année, encore une fois, absolument étonnante, qui est 1968, en parlant un peu de ce contexte mondial. Alors, ça vient d'avant. Il y aura plein de conséquences après. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on n'a pas totalement digéré mai 68. Il y a aujourd'hui encore de grands débats. La preuve, c'est que ce cinquantenaire, on en parle quand même beaucoup. Ça donne lieu à pas mal de d'émissions, de débats à nouveau. Il y a les anti, il y a les pour, il y a ceux qui savent, qui connaissent pas vraiment, les générations plus jeunes. Donc du coup, c'est intéressant aussi de reparler de mai 68 ouais. très concrètement, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Premier son, justement par rapport à ce qui se passe dans le monde en mai 68, je te propose, alors j'ai cumulé deux petits sons.
Avec le premier, une transition abrupte.
Avec une transition abrupte.
D'accord.
Okay. D'abord un extrait de journal télévisé, je crois que ça date de 20 ans. Donc c'était les 30 ans de mai 68, et une émission, enfin c'était un extrait de journal télévisé de France 2, ou d'Antenne 2, on le disait peut-être à l'époque.
Oui.
Voilà. Et deuxième partie, c'est le début d'un documentaire qui s'appelle Un monde en révolte, et voilà, qui parle de 1968. On écoute et puis on en reparle derrière.
Les revendications les plus légitimes des étudiants ne nous masquent pas que leur problème est international. Les facultés sont fermées en Chine. Les étudiants se battent au Japon, se révoltent en Allemagne, en Italie, en Hollande et même de l'autre côté du rideau de fer. Pas en face de besoins de réforme, mais en face d'une des crises les plus profondes que la civilisation ait connue.
On a tous
en tête les charges des CRS, les pavés, les barricades, le quartier latin qui s'embrase. Mais les héros de 1968 sont américains, allemands, tchèques. Ils sont aussi africains, du Sénégal ou d'Algérie. Dans les facultés du monde entier, des étudiants se sont révoltés cette année-là. Certains ont gagné, d'autres ont perdu. À travers leur destin, c'est le monde d'aujourd'hui qui se dessine. Daniel Cohn-Bendit, l'icône insolente du mois de mai parisien, est devenu depuis député européen. Yann Palache, l'étudiant au visage triste, symbole de l'insurrection pragoise, s'est immolé par le feu quelques jours après la fin de l'année 1968.
L'année 68, c'est d'abord l'année du Vietnam. En février, le Viet Cong lance l'offensive du Tet, le nouvel an vietnamien. Devant les caméras de télévision, le chef de la police de Saïgon exécute un combattant.
Militairement, ils attaquent partout. Et les Américains voient des Viet Cong, et aussi des Nord-Vietnamiens, occupant l'ambassade américaine à Saïgon, prenant la ville impériale de Hue, et à ce moment-là, l'opinion américaine bascule complètement.
Une Amérique qui commence à douter du bien fondé de cette guerre et des soldats qui découvrent l'horreur, mais aussi la drogue. La mobilisation contre la guerre emporte l'adhésion d'une grande partie de la jeunesse. Une jeunesse gagnée par la mode des hippies, peace and love, appelant à faire l'amour et non la guerre, et se rassemblant à l'occasion de grands concerts. Aux États-Unis, le mouvement anti-guerre a démarré en Californie, à l'université de Berkeley. Mais l'Amérique de 68, ce n'est pas seulement la guerre au Vietnam, c'est aussi la répression impitoyable menée dans les ghettos contre les Noirs, qui réclament les mêmes droits que les Blancs. Des images de guerre civile, comme ici à Watts, à Los Angeles. On ne compte plus dans le monde les manifestations étudiantes contre la guerre au Vietnam. À Paris bien sûr, mais aussi à Rome, Berne, Zurich, Bruxelles, Belgrade, Istanbul, également Dakar, Kinshasa, Bogota, Buenos Aires, mais aussi Montevideo, Santiago ou Quito. Ici au Japon, les étudiants regroupés dans le mouvement Zengakuron attaquent systématiquement les bases américaines d'où décollent des avions pour bombarder le Nord-Vietnam. À Berlin-Ouest, le mouvement étudiant est regroupé dans le SDS, son leader Rudi Dutschke. Il explique avant chaque manifestation comment résister à la police. Le 11 avril, il est victime d'un attentat. Il survivra, mais ne s'en remettra jamais. De l'autre côté du rideau de fer, il y a bien eu en Pologne des manifestations étudiantes. Mais surtout en Tchécoslovaquie, le printemps de Prague se termine en tragédie. Depuis le début de l'année, Alexandre Dubček avait tenté une politique de réforme. Tout un peuple s'était mobilisé pour en finir avec le stalinisme. Inacceptable pour les soviétiques, il n'y aura pas de socialisme à visage humain. Depuis l'été, le mouvement étudiant a transformé l'université de Mexico en camp retranché. En septembre, l'armée occupe les lieux. En octobre, les soldats organisent un traquenard sur la place des Trois Cultures. Il y aura des centaines de morts. L'ordre est rétabli. Les Jeux Olympiques peuvent se dérouler, mais la surprise viendra des athlètes noirs américains. Ils osent lever le poing, symbole du pouvoir noir, au moment de l'hymne américain. Un dernier défi qui clôt l'année 68, l'année de la révolte de toute une génération.
C'est impressionnant.
Hein, ouais. Mmh. Donc, oui, beaucoup de... Un contexte riche d'enjeux, je dirais. En fait, c'est comme si il y a deux forces qui s'opposent. Un mouvement très fort qui va vers un désir de libération, d'émancipation. Et puis, pour contrer ça, une autorité, des institutions qui sont installées et qui réprime très fortement en fait ces mouvements, ces désirs d'émancipation. Et on a l'impression que 68, c'est le choc frontal en fait, entre de ces deux générations, deux mouvements, deux mondes qui vont.
Et ce qui est complètement fou, moi, qui me surprend toujours, c'est que ça se passe partout dans le monde, parce que, enfin, on a vu, c'est vraiment partout, tous les continents sont touchés, pour des causes différentes, mais voilà, c'est des étudiants qui se révoltent, c'est. Quelle que soit la raison pour laquelle ils se révoltent, en tout cas, ils se révoltent. Et ça se passe la même année partout dans le monde.
Ouais, tout à fait. Alors, c'est... je pense que, si tu veux bien, dans une deuxième partie, on prendra des exemples précis de pays, de ce qui se passe. Je pense que l'influence des États-Unis, elle est importante, enfin, de ce qui se passe aux États-Unis, parce qu'effectivement, on parle beaucoup dans les années 60 et en 68, ça culmine un peu, mais il y a beaucoup de réactions face à ce qu'on appelle l'impérialisme américain. Donc ça, c'est un élément déterminant.
La guerre du Vietnam.
Oui, la guerre du Vietnam, bien sûr. Ouais. On en reparlera. Il y a aussi la révolution sexuelle. 1967, c'est le Summer of Love. Et pareil, toi qui es attaché à la culture pop, dans les années 60, c'est quelque chose qui commence à prendre beaucoup d'ampleur. Et le rock, la pop, le mouvement hippie, ça prend une importance déterminante dans ces années-là. Ça vient de la contre-culture américaine des années 50, la Beat Generation, tout ça. Voilà, ça vient de là. Et dans les années 60 et autour des années 67-68, ça touche de façon très impactante les jeunes générations. Et puis voilà, faut pas négliger aussi, mais ça participe aussi de ces mouvements d'émancipation, c'est les Noirs américains aussi qui combattent pour leurs droits, le mouvement des droits civiques. Donc pareil, c'est les années 60 et c'est en 68 aussi très fort, quoi. Voilà. On fait une petite pause musicale.
Allez, et avec quoi alors ?
Avec un tube emblématique de l'année 1968, les Rolling Stones, qui chantent Sympathy for the Devil, bien sûr. Yes.
Reach Bombay.
Tu sais que les sessions d'enregistrement de Sympathy for the Devil des Stones ont été filmées. Hein. On en reparlera, je pense, par Jean-Luc Godard.
Par Jean-Luc, ah
ouais,
mon Dieu.
Ouais. On va reparler de Jean-Luc, forcément.
Bah forcément.
On fera des émissions culturelles, enfin autour de
ouais.
Whisky, parce qu'il y a matière.
C'est pareil, ça foisonne. Hein.
Ça foisonne. Mmh.
Si. Dis-moi.
Alors. Comme je te le proposais, je pense que ça peut être intéressant qu'on fasse, voilà, sur le petit quart d'heure qui nous reste, une sorte de panorama dans les différents ouais. pays du monde de ce qui se passait en 68. Peut-être en commençant par l'Europe occidentale, ce qu'il y a de plus proche de chez nous.
Ouais. Hein.
Alors, par exemple, en Allemagne, en Belgique, il y a des universités qui sont occupées.
On rappelle quand même un petit truc que peut-être ouais. les jeunes générations ont oublié, c'est qu'à l'époque, l'Allemagne, ça n'existe pas. On a la
RFA, tout
la République
à fait.
Fédérale d'Allemagne, qui est ouais. la partie ouais. ouest, la partie
Exactement.
Occidentale, avec
oui.
Bonn pour capitale.
C'est un bon rappel, tu as
et
raison.
Et la partie est,
Exactement.
Hein, de l'autre côté
qui
du rideau
du bloc de l'Est.
La RDA, République démocratique
voilà.
allemande.
Et c'est pour ça que c'est important de distinguer l'Europe occidentale, l'Europe de l'Ouest, hein, effectivement, avec du côté de l'Allemagne, la RFA. Et puis, voilà, il y a déjà une communauté européenne qui comprend des pays occidentaux, ouais, pour le coup. Ouais. Et donc, ça bouge en Europe, ça bouge en Allemagne, ça bouge en Belgique, aux Pays-Bas aussi. Aux Pays-Bas, en fait, à Amsterdam, en 68, et ça commence déjà même en 65, il y a un petit groupe de provocateurs anarchistes qui en fait rejettent la société de consommation, les hiérarchies, les modalités du travail telles qu'ils se pratiquent, et tout ça en fait voilà, pendant deux ans ils agitent un peu la vie politique locale aux Pays-Bas. En Italie aussi, c'est assez chaud. En fait, il y a une contestation étudiante qui débute en fait en 67,
ouais,
à Trente, à Milan, et qui s'étend en fait à tout le pays en mars 68. Et quand la police intervient pour faire cesser le blocage de l'université de Rome, notamment, des affrontements étudiants contre force de l'ordre éclatent. Et c'est, voilà, c'est assez violent, quoi.
Mais c'est pareil, des mouvements anarchistes et
ouais,
tout ça.
Ouais, tout à fait. Mmh. Voilà. Puis, oui. Ouais. Ghislain ?
Non, rien. Europe de l'Est.
Europe de l'Est, oui, tout à fait.
Super, voilà. Il faut aussi rappeler qu'à l'époque, donc, rideau de fer, c'est-à-dire, oui, que vraiment, c'est étanche entre, mm-hmm, l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Mm-hmm. C'est vraiment étanche.
Tout à fait. Et pourtant, malgré tout, il y a aussi des mouvements de contestation qui se développent en Europe, ouais, de l'Est. Et notamment, enfin, ça a été évoqué dans le son.
Le printemps de Prague.
Exactement, hein, qui a été évoqué dans le son. Ouais. Printemps
de Prague, Tchécoslovaquie,
ouais,
hein, mm-hmm, qui formait un seul pays. Et avec l'arrivée de Dubček.
C'est ça.
Dubček, hein, qui est un dirigeant communiste mais réformateur, mmh, qui, ouais, va vouloir libéraliser un petit peu tout ça.
Un socialisme à visage humain. Ouais.
Et ça, ça plaît pas aux Russes.
Pas du tout, pas du tout. Et du coup, ben voilà, les chars soviétiques débarquent à Prague.
Ouais, ils, mm-hmm, laissent un peu passer de temps, et puis à un moment donné, ils débarquent, et là, c'est la fin, et c'est l'horreur. Il y a les chars soviétiques, mm-hmm, mais il y a ce qu'on appelle à l'époque le pacte de Varsovie, ouais, hein, qui est l'OTAN version pays de l'Est, mm-hmm, et c'est le pacte de Varsovie qui envahit, c'est-à-dire les autres pays alliés de l'URSS envahissent.
Exactement.
La Tchécoslovaquie aussi, hein, Prague.
En Pologne aussi.
En Pologne, ouais.
L'interdiction d'un spectacle jugé anti-soviétique déclenche des manifestations étudiantes contre lesquelles la police intervient brutalement en mars, donc mars 68. La répression se poursuit dans les semaines suivantes et prend un tour antisémite quand le gouvernement de Gomulka met en cause les leaders juifs du mouvement. Mmh. Voilà.
Bon, réveillons les vieux démons.
N'est-ce pas? Alors, les États-Unis, forcément, on en reparle. Il, ouais, y a un événement en avril 1968 qu'on ne peut pas passer sous silence.
Bah, non.
Un petit son pour l'évoquer. C'est le dernier discours de Martin Luther King, le 3 avril 1968. Un extrait.
It really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And he's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over. And I've seen the promised land. I may not get there with you. But I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord.
Donc ça, c'est le 3 avril. Et le lendemain, le 4, qu'est-ce qui se passe?
Il est un peu tué.
Ouais, il est assassiné. Voilà, à Memphis. Et ça, bon, forcément dans le paysage 68, c'est un truc déterminant aussi, je pense, dans les révoltes qui vont naître derrière, et ça a un impact mondial, l'assassinat de Martin Luther King.
C'est clair, oui. Mais ce qui se passe aux États-Unis aussi a un impact un peu mondial. On parle de Martin Luther King, mais il y a le pendant un peu plus lutte armée des Black Panthers.
Oui.
Avec les jeux de Mexico. Ouais. C'est ça, c'est ouais, Mexico, c'est ça. Où on a les athlètes noirs qui lèvent le poing.
Ouais, ganté.
Ouais. Mm-hmm. Voilà, le signe des Black Panthers.
Ouais.
Et il y a l'assassinat de Robert Kennedy aussi aux États-Unis en 68.
Ouais. Mm-hmm.
C'est-à-dire un candidat qui était réputé être celui des jeunes, des noirs, des minorités, qui, dès qu'il est désigné comme candidat démocrate, est assassiné.
Mm-hmm.
Ça, ils attendent pas, je crois que c'est le lendemain ou le surlendemain, ouais, c'est comme ça. C'est complètement incroyable.
Donc, on a fait l'Europe, on a fait
les États-Unis quand même. Le truc important, la guerre du Vietnam.
Oui. Ouais. Mm.
Quand même. Ça, c'est un commun à toutes les révolutions, pratiquement. Oui. Parce qu'il y a des manifestations dans le monde entier contre la guerre du Vietnam.
Tout à fait. Ouais.
L'enlisement, le début de l'enlisement, le début de la fin.
Mm. En Afrique aussi.
Ah.
Ouais. Ça, je l'ai découvert, je ne savais pas forcément, mais en Afrique, en Égypte, mais aussi au Sénégal, en mai, la révolte étudiante déclenchée par une réforme des bourses se tourne bientôt contre le pouvoir et l'influence persistante de la France. L'université de Dakar est occupée. Comme au quartier latin, la violence de la réaction policière suscite l'indignation des syndicats qui appellent à la grève générale. Et après des émeutes durement réprimées, une fois de plus, plusieurs morts, le président Senghor, qui avait trouvé refuge dans une base militaire française, accepte finalement d'ouvrir des négociations. Voilà, donc au Sénégal, en Égypte, donc même le continent africain est touché par ça. Enfin, touché. En tous les cas, il y a aussi une volonté de faire bouger les choses et des mouvements de libération qui se mettent en branle, si j'ose dire.
Ouais.
L'Asie, forcément.
Bah oui, forcément.
Ouais, ouais. Le Vietnam, tu l'as évoqué.
Ouais.
Le Japon, et puis aussi un truc.
Au Japon.
Au Japon. Tu veux que je te dise ce qui se passe au Japon?
Dis-moi ce qui se passe au Japon.
Des émeutes éclatent en janvier quand les étudiants empêchent l'entrée dans le port de Sasebo d'un porte-avions américain en route pour le Vietnam.
Ah oui.
À l'opposition aux États-Unis, qui possèdent plusieurs bases militaires dans l'archipel, se greffent bientôt d'autres revendications concernant les frais de scolarité, encore des mouvements étudiants là, mais aussi des expropriations de paysans. Et de très nombreuses universités sont occupées au printemps aussi au Japon. Et puis on est obligé aussi, parce que je pense que c'est déterminant, de parler de la Chine. Parce qu'en Chine, Mao est au pouvoir, et puis c'est la révolution culturelle qui a commencé en 1966. Et ça aussi, ça sur les intellectuels européens et français notamment, ça a une importance. On parle beaucoup du petit livre rouge. Je pense qu'on aura l'occasion d'en
parler.
Et des maoïstes. Oui, et des maoïstes. Contrairement à ce que on peut dire et croire, effectivement, c'est imposé par une autorité gouvernementale, mais ça s'enracine aussi, et il y a des gens qui ont cru à ça, des Chinois. Donc je vous propose d'écouter un petit son. C'est extrait d'un documentaire de Jean-Michel Carré qui s'appelle Le Nouvel Empire, Révolution culturelle en Chine. Et ça parle effectivement de cette période de 10 ans, de 66 à 76, la révolution culturelle en Chine, et de comment effectivement les ouvriers chinois ont été pris dans cette prise et ont pu croire effectivement à cette révolution industrielle et politique.
Pour reprendre le leadership, il doit obligatoirement abattre le nouveau pouvoir mis en place par Deng. Devenu minoritaire, Mao a recours à la mobilisation des masses contre les représentants du parti. Il va s'appuyer sur la jeunesse qui vient par millions l'acclamer place Tiananmen. C'est Lin Biao, son ministre de la Défense, qui rédige le petit livre rouge et s'assure que tout citoyen en reçoive une copie. Une jeunesse qui voit l'occasion d'attaquer autant la bureaucratie du parti, qu'elle considère comme une nouvelle bourgeoisie, que l'insupportable rigidité de l'institution scolaire.
La société avait besoin d'un mouvement politique de grande ampleur, qui la mobilise de bas en haut. Un mouvement qui dénonce l'obscurantisme et purifie la société, pour que tous travaillent au bien commun, pour qu'ils abandonnent les pratiques des marchés libres guidés par l'appât du gain, pour que tout le monde se dévoue à la collectivité, au pays. La révolution culturelle incluait effectivement ce projet, du point de vue idéologique. L'adhésion populaire à la révolution culturelle ne procédait pas seulement de la terreur ou de la soumission, il y avait là une large part de volonté, de conviction personnelle.
La forme de démocratie que la révolution culturelle mettait en avant était celle de la Commune de Paris. Quand la révolution culturelle a débuté, j'ai cru au message de Mao qui correspondait à ce que je ressentais, à savoir qu'il fallait lutter contre les bureaucrates. Je me suis donc pleinement lancé dans ce mouvement. J'ai cru, en la thèse de Mao, qu'il fallait que les prolétaires continuent la révolution. C'est ainsi que je suis devenu maoïste.
Alors, ouais, comme on l'entend dans cet extrait documentaire, c'est pas seulement quelque chose qui est imposé comme ça par une autorité, c'est vraiment quelque chose auquel voilà, les citoyens chinois ont pu croire. Et ça aussi, même des résonances en Occident, puisque dans les révolutionnaires occidentaux et français, il y a un mouvement maoïste qui, à l'époque, est
assez important,
et assez fort. Ouais, tout à fait. Et bah, pour conclure éventuellement cette première émission, parce qu'on est déjà au bout de la demi-heure, si tu veux, on va passer cette... alors, c'est pas un extrait, je crois que c'est une bande-annonce d'un film de Jean-Luc Godard qui est sorti en 67, donc l'année précédente, qui s'appelle tout simplement La Chinoise, et qui met en scène de jeunes maoïstes qui croient en la révolution faite avec le petit livre rouge. On conclut là-dessus cette première émission ?
Allez, concluons.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Je m'appelle Véronique Supervielle, j'ai 19 ans, 8 mois, 14 heures, 2 minutes et 20 secondes.
Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent et moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient et moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao, Mao.
Le petit livre rouge qui fait que tout avant bouge.
L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. Est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mets Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent.